I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
正忙着正忙着
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Sophia Anastasio, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Yanis Djouda. Dernier volet consacré à l'agriculture, on va s'intéresser ce matin à l'Afrique et aux potentialités agricoles du continent. De l'agriculture vivrière à l'agrobusiness, c'est notre sujet ce matin.
C'est une machine à chenilles qui peut travailler dans toutes les conditions d'humidité du sol. Cette machine nous permet de réduire énormément les pertes liées à la récolte.
Les magasins sont pleins de riz. Si on règle le problème, acheter le riz, je peux dire qu'en 2016, on pourra atteindre l'autosuffisance.
Ce qui est important, c'est les métiers annexes, connexes qui seront créés tout autour de l'agriculture, qui sont d'une importance capitale. Métiers de commercialisation, transformation, petites unités industrielles par-ci, par-là. Et tout cela créerait des pôles qui pourront nous permettre de créer beaucoup d'emplois.
Main focus is within the next 3 years.
Notre objectif est l'autosuffisance en concentré de tomates d'ici à 2 ans au Nigeria. De ne plus avoir besoin d'importer et même d'exporter du concentré, mais ça, c'est une vision à long terme.
Au Nigeria, justement, le manque cruel d'usines de transformation des matières agricoles aboutit à ce paradoxe. Le pays est le deuxième producteur de tomates du continent, mais il importe chaque année 300 000 tonnes de concentré de tomates en provenance d'Asie. Selon la Banque centrale du Nigeria, la moitié de la production nigériane de tomates pourrit même chaque année à cause du manque de capacité de stockage et d'accès aux points de vente. Un paradoxe qui pourrait bien être résolu, puisque l'homme d'affaires nigérian qu'on entendait, Aliko Dangote, vient d'inaugurer la plus grande usine de transformation de tomates du continent, dans l'état de Kano, au nord du Nigeria. Cette installation, grande comme 10 terrains de foot, a été construite à proximité de 17 000 hectares de champs irrigués et vise une production de 430 000 tonnes de concentré de tomates par an. Le Nigeria n'est pas le seul pays du continent concerné. La plupart des pays africains disposent de ressources naturelles abondantes, mais ont des difficultés à les cultiver et surtout à les transformer pour répondre à la demande urbaine croissante. En cause, le manque d'investissement, mais aussi la fragmentation des parcelles, la fragilité des politiques publiques et la concurrence des produits importés. En Afrique, l'agriculture représente pourtant 65% de l'emploi et 75% du commerce intérieur. Le potentiel de croissance est considérable et les avantages multiples. L'agrobusiness est non seulement un vecteur de croissance, mais il pourrait également permettre d'assurer l'autosuffisance alimentaire du continent. Une préoccupation majeure après la crise alimentaire de 2008 qui avait provoqué, on s'en souvient, des émeutes un petit peu partout sur le continent. Mais de nombreuses voix s'élèvent pourtant pour dénoncer l'exportation d'un modèle occidental capitaliste qui empêcherait une transition agricole à l'africaine. Alors, faut-il promouvoir une intensification des cultures ou défendre au contraire l'agriculture vivrière, très largement dominante en Afrique ? L'agrobusiness est-il un vecteur de croissance ou le simple relais de l'idéologie productiviste ? Les deux modèles peuvent-ils, doivent-ils exister en parallèle ? Comment les petits producteurs africains ont-ils accès au marché ? La transformation des matières premières est-elle accaparée par les grandes multinationales? Voilà un petit peu les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Et pour ce faire, nous avons un invité en duplex depuis Toulouse, Bernard Charlery de La Masselière. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Vous êtes un spécialiste des... la paysannerie, des filières agricoles en Afrique, et puis auteur de cet ouvrage « Penser la question paysanne en Afrique intertropicale » qui était paru aux presses universitaires du Mirail. Alors vos recherches, elles portent sur les paysanneries, les filières agricoles en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Est, Rwanda, Burundi, Kenya, Ouganda, et puis la Tanzanie, que vous connaissez très bien. Dans votre livre, vous donnez l'ambition d'articuler, je vous cite, la question paysanne à celle de la modernité, en faisant l'hypothèse d'une modernisation structurellement inachevée et en réalité inachevable, mais on va voir ça dans un instant. Quand on pense, Bernard Charlery de La Masselière, aux enjeux agricoles en Afrique, on est un peu pris dans un dilemme. D'un côté, on se dit, et je le décrivais un petit peu dans mon introduction, que les potentialités sont extraordinaires et qu'il est urgent de les libérer, à la fois pour des raisons de souveraineté alimentaire, je le rappelais, mais aussi de création d'emplois. Et puis de l'autre côté, on se demande si ce développement de l'agriculture doit se faire selon le modèle productiviste qu'on a suivi, nous, en Europe, tant on se rend compte, bien sûr, que cette intensification, elle nous a conduit dans le mur, on en parlait lundi. à la fois pour les paysans qui se retrouvent dans une crise durable en réalité, mais aussi quand on pense aux conséquences bien sûr environnementales de l'utilisation massive d'intrants chimiques. Comment se sortir finalement de cette aporie? Est-ce qu'il faut faire le choix de l'agriculture intensive? Est-ce qu'il faut l'éviter au contraire à tout prix pour préserver la paysannerie? Ou est-ce que finalement il faut suivre quoi, une troisième voie qui serait un équilibre entre les deux?
Je ne sais pas si c'est un choix qu'il faut faire. Je pense que d'abord, il faut se replacer dans une perspective historique pour comprendre quelle est la situation actuelle et replacer ce dilemme dans cette évolution historique. Il faut bien savoir que les agriculteurs africains, contrairement à ce que c'est souvent dit, sont entrés dans la modernité agricole depuis la colonisation à travers les fameuses cultures commerciales, café, cacao, etc., qui au départ étaient considérées comme entraînant la pauvreté des paysans, mais qui sont devenus des cultures patrimoniales au sein de la plupart des pays africains. Et à travers ça, s'est construit un modèle de modernité qui d'abord démontre la capacité des agriculteurs à faire évoluer sur le long terme leur propre structure de production pour s'adapter au nouveau contexte. Ce contexte-là, on peut l'intégrer dans ce que j'appelle moi un modèle de développement colonial et néocolonial qui s'est développé entre 1930 et 1980. La paysannerie africaine, elle est là. Bon, elle est là. Donc la question, elle n'est pas de savoir s'il faut l'exclure ou s'il faut l'intégrer ou s'il faut la favoriser plus qu'autre chose, mais elle est là. Et si l'objectif, c'est d'assurer la sécurité alimentaire, déjà, il faut assurer la sécurité alimentaire de ceux qui produisent. Même si, depuis une vingtaine d'années, avec la croissance des villes, des villes moyennes et des petites villes en particulier, a ouvert un nouveau marché qui est celui du vivrier, de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivrier marchand, pour lequel les agriculteurs, les petits paysans en particulier, sont bien positionnés. Simplement, depuis les années 80, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel, la déprise de l'État, les agriculteurs ont connu une très grave crise dans les années 90, dont ils sortent doucement, dans un contexte qui est extrêmement fragile, et dans un contexte où se repose la question de la mobilisation des terres, la mobilisation du travail, la mobilisation de l'eau, pour assurer, à l'échelle cette fois-ci planétaire, la sécurité alimentaire. Voilà. Alors, là où il faut faire vraiment attention, c'est que le discours sur ce que vous appelez l'agro-business, c'est-à-dire sur l'amélioration de la sur le productivisme, l'amélioration de la productivité, etc., c'est un discours qui existe depuis très longtemps en Afrique. Si vous regardez les discours des années 50, ils étaient exactement le même. Exactement le même. L'objectif, c'était d'améliorer la productivité des sols, d'améliorer éventuellement la productivité du travail. La question du capital restait posée à cette époque-là. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, on a des investisseurs, ça c'est clair, qui ont des intentions multiples, mais qui sont pas forcément liés à cette histoire.
On va revenir sur cette époque contemporaine et sur ces intentions de ces investisseurs, mais peut-être pour revenir à cette formule que vous utilisez, parce que vous parlez d'une modernisation inachevée et en réalité inachevable. Parce qu'il faut peut-être rappeler qu'il y a eu effectivement en Afrique un mouvement de modernisation de l'agriculture dans les années 80-90, mais qui n'a pas complètement abouti et qui a eu des conséquences aussi. Cette modernisation inachevée, elle l'a eu pour conséquence notamment de pousser finalement l'agriculture africaine vers la culture de céréales et de tubercules qui a été évidemment qui était portée par le phénomène d'urbanisation que vous avez rappelé, qui a augmenté bien sûr la demande. Donc on a eu un essor considérable du maraîchage. C'est aussi ça la conséquence de cette modernisation inachevée.
Non, c'est pas tout à fait ça, excusez-moi, mais le processus de modernisation, je le place, si vous voulez, entre 1930 et 1980. Contrairement à ce qu'on dit, on a souvent dit que, bon, les paysans n'étaient pas entrés dans l'histoire, on y reviendra, mais que la paysannerie n'est... C'est l'image de la paysannerie, si vous voulez. J'ai un de mes étudiants, pour donner un exemple, j'ai un de mes étudiants qui a travaillé sur les représentations de l'Afrique rurale dans les manuels Hachette entre 1950 et 2010. Vous avez exactement les mêmes images en 1950-2010. Vous avez un malheureux paysan qui essaie, en communauté, bon, avec la houe, qui essaie de travailler une terre aride et poussiéreuse. Bon, donc ça, c'est l'image hein, qui reste. Et derrière ça, on a s'est développé le fait que la paysannerie ne pouvait pas répondre à, en particulier, aux défis alimentaires et ne pouvait pas entrer dans un processus de modernité. Bon, la modernité, elle s'est fondée sur quoi ? Elle s'est fondée, bien sûr, sur l'amélioration des semences, sur l'amélioration des structures aussi de production, sur l'amélioration des en particulier sur la base, à partir hein, des grandes cultures coloniales, qui ont été encore une fois le café, le cacao, l'arachide, le coton. Et autour, à côté de ça, l'agriculture vivrière est restée longtemps une agriculture de subsistance. Mais s'est développé sur cette base-là un modèle paysan d'agriculture familiale, assez rustique, hein, mais qui démontrait à la fois, qui démontre vraiment la capacité des producteurs à entrer dans l'histoire, donc à s'adapter à un contexte historique qui est celui des années 1930-1980. Or, en 1980, pourquoi c'est inachevable ? Parce qu'en fait, tout ça se construit évidemment dans le monde du développement avec un centre qui est l'Europe, disons le monde occidental très vite à cette époque-là, et une périphérie qui est l'Afrique. Or, la modernisation telle que nous l'avons vécue ici en France, par exemple, elle a supposé que l'amélioration de la productivité du travail, l'amélioration de la productivité des sols entraîne cette grande migration de la population rurale vers la population à l'époque industrielle. Ceci ne s'est pas passé en Afrique. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'industrialisation de l'Afrique, sinon de façon marginale, et les populations rurales sont restées rurales. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de ruraux en Afrique qu'aujourd'hui. Voilà. Ce qui est vraiment la grande différence avec le processus. Mais la base est la même, c'est-à-dire qu'on a travaillé à partir des instituts agronomiques de recherche, etc. Le modèle productiviste était le même.
C'est le même, sauf qu'on n'est pas allé au bout du processus.
Non, on n'est pas allé au bout. Non, pour vous dire, dernière chose, en 2008, hein, quand il y a eu les émeutes
de la faim,
il y a eu des articles, je me rappelle d'un article dans Le Monde, par exemple, qui disait, ah ben non, il faut intensifier les sols, il faut améliorer la productivité, etc. En Afrique. Mais j'ai dit, mais c'était le discours des années 50, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que 50 ans, 60 ans après, on pense toujours la même question ?
Alors, ce discours a une autre fonction.
Ce discours,
il a une autre fonction, justement, quelques années plus tard, hein, vous parlez des années 50, en juillet 2007, notre président de la République, Nicolas Sarkozy, va à l'université Chakanta Diop de Dakar et il prononce ce fameux discours de Dakar. On va écouter un petit extrait. Parce que vous avez choisi un extrait justement de ce discours de Dakar de Nicolas Sarkozy comme incipit de votre livre, donc on va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, écoutez Nicolas Sarkozy.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin.
Voilà, 28 juillet 2007 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi avoir choisi ce discours qui plus est pour parler de la paysannerie africaine? Vous écrivez, Bernard Charlery de la Masselière, dans le discours de Dakar, le glissement sémantique qui, d'une phrase à l'autre, réduit l'homme au paysan, traduit bien le cadre conceptuel dans lequel est pensée la situation de l'Afrique. Le paysan sert d'alibi à une histoire sectorielle et technicienne du développement colonial et néocolonial qui légitime le changement de dimension de la société ainsi que la division sociale qui fonde la hiérarchisation des pouvoirs. Et vous finissez, il y a donc bien un enjeu de pouvoir dans la façon dont on fait un peu, beaucoup ou pas assez entrer le paysan africain dans l'histoire.
Oui, bien sûr. La question, si vous voulez, pendant la période coloniale, c'était de légitimer l'aventure coloniale et légitimer le fait que des gens venus de l'extérieur venaient coloniser, mobiliser les ressources d'un espace précis où déjà des populations vivaient. Et ceci s'est fondé en particulier sur la dévalorisation de la figure du paysan. Et là, le discours de Dakar en est un exemple. Mais il répète exactement, moi j'ai d'autres exemples, mais il répète exactement ce qui était dit dans les années 20. Hein, c'est la même chose. Donc il y a une forme de dévalorisation. Pourquoi dévaloriser ? Tout ça pour introduire ce qui est, comme le disaient des agronomes belges dans les années 40, pour introduire la science du blanc. Voilà. La science du blanc, c'est la technique, justement.
Mmh. Donc, la colonisation va pousser, si je comprends bien, le continent africain dans un nouveau moment, celui du productivisme, oui. Du marché, ce qui va conduire les acteurs de la colonisation à repenser l'organisation des espaces et des ressources. Et dans cette quête, vous dites que le paysan va devenir une figure incontournable en ce qu'elle est, à ce moment-là, la seule figure de producteur. Du coup, paysan, il va servir d'alibi à la construction d'un moment historique, celui du développement.
Oui, tout à fait, parce que, si vous voulez, les politiques coloniales vont s'organiser autour de l'amélioration de la situation des agriculteurs à partir de 1930, c'est-à-dire à partir de la grande crise de 1929, qui a vu les grandes plantations, justement, de l'époque, qui étaient essentiellement, pour beaucoup d'entre elles, avaient été développées sur la base de financements familiaux, d'Européens, j'entends. Et qui n'ont pas résisté à l'effondrement des cours de la grande crise de 1929. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'on s'est dit, mais on a là quand même des forces de travail, il faut mieux intégrer la force de travail, donc les paysans, dans le projet colonial. Et c'est à partir de là qu'on a commencé d'abord à améliorer la santé de la population, ensuite à développer de la recherche agronomique, à améliorer le crédit, à encadrer les paysans à travers le système coopératif en particulier, et de leur donner les moyens de produire, essentiellement de produire les cultures dont la colonie avait besoin. Ce processus-là, il s'est effondré dans les années 80. C'est-à-dire que la déprise de l'État, il a été poursuivi dans les premières décennies des États indépendants, et il s'est effondré dans les années 80, produisant d'ailleurs des conflits multiples sur l'ensemble de l'Afrique. Mais les paysans sont toujours là, voilà. Donc aujourd'hui, on est bien dans la
même
situation.
Ils sont toujours là, mais en réalité,
qu'est-ce que va chercher l'agro-business en Afrique? Voilà. Ça, c'est bien la question.
Ils sont toujours là, mais en réalité, on les a un peu oubliés. Parce que le drame de l'Afrique, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy, c'est qu'en réalité, on a totalement oublié les paysans africains. Vous dites que dans les années 70-80, toutes les communes portaient des projets forts dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, tout ça est terminé. Pour beaucoup, ils sont totalement abandonnés. Ou laissés, évidemment, dans les pattes, j'allais dire, des investisseurs étrangers. Et des multinationales.
Si vous écoutez les agriculteurs, moi je vais souvent sur le terrain, c'est leur grand leitmotiv. Ici, on est complètement abandonné. On essaie et on voit bien que toutes les structures d'encadrement, la vulgarisation comme on l'appelait dans les années 70, tout ça a disparu. Et les paysans se retrouvent face au marché, seuls la plupart du temps, avec leurs propres contradictions, parce que il y a aussi des contradictions internes avec des évolutions dans les relations entre les grands acteurs, l'homme, la femme, des relations entre les jeunes, les vieux, etc. Donc avec aussi là des objectifs qui sont d'ailleurs souvent différents entre ces différentes catégories. Et face au marché, Alors, ils essaient de se débrouiller. Alors, il y a de nouvelles formes de différenciation qui se font à l'intérieur de ce groupe qu'on appelle les paysans africains, parce que ce groupe n'est pas unifié, bien entendu. Mais ça se fait dans une très, très grande précarité. Voilà. Alors, la question, c'est en face de quoi, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment que les agriculteurs, aujourd'hui, qui nourrit les villes africaines? Ce sont les petits producteurs. Ce sont les petits producteurs qui nourrissent les villes africaines. D'abord parce que ils ont une diversité de produits qui répond à la demande urbaine, qui est souvent culturellement associée au village, associée enfin à une vie africaine, donc à des produits africains. C'est pas forcément du riz. Vous avez la façon de transformer le manioc, la façon de transformer la banane, la façon de transformer le maïs, etc. Ça, ce sont des compétences qui sont propres à la petite paysannerie, on va dire.
Alors on a oublié les paysans, Bernard Chalery de la Masselière, mais comme la nature a horreur du vide, eh bien il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Et ces dernières années, on a la Chine qui a considérablement augmenté sa présence en Afrique dans le domaine de l'agriculture. Les coopérations dans le secteur se sont multipliées. Écoutez par exemple cet extrait d'un reportage qui date de quelques années maintenant, Razzia chinoise sur terre camerounaise. Écoutez.
Avec une grande superficie, les coûts de production sont réduits et les prix de vente sont très bas. Dès que le terrain sera délimité, il y aura des gens qui viendront de Chine pour le cultiver. Mais on attend d'abord l'accord du Cameroun.
Si jamais il y a à recruter 3000 personnes, eux seuls fournissent 2000. Ce n'est pas acceptable. Qu'on soit inondé des Chinois ici alors qu'on a des gars qui sont au quartier.
Pas fatigué.
Nous avons vraiment besoin de l'aide puisque nous faisons des travaux pénibles à la main. Nous faisons des champs de 50 mètres carrés. Bon, avec leur aide, nous pouvons faire des champs de 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares.
Ico a demandé 4 000 hectares parce qu'ils sont en voie de construction d'usines de transformation de manioc et fabrication de whisky. Le spaghetti, nous allons beaucoup avoir du maïs, du riz, bon, on va acheter ça moins cher, au lieu d'acheter cher.
Voilà, extrait de Razzia chinoise sur terre camerounaise. Cette présence chinoise, Bernard Chalery de la Masselière, elle inquiète de plus en plus les accaparements de terre, qu'on assimile parfois à du néocolonialisme agraire. C'est un sujet très sensible en Afrique et par ailleurs, pour la Chine, c'est un enjeu majeur puisque quand on sait que seulement 9% des terres arables sont en Chine, quand on doit nourrir 20% de la population mondiale, on se rend bien compte qu'on a ce besoin d'externaliser l'agriculture. Mais les Chinois, on l'a dit, donc investissent beaucoup et de plus en plus dans ce secteur de l'agriculture. Mais pour vous, cette collaboration ne fonctionnera pas. Et pour une raison intéressante, pour une question de statut de la terre.
Ça dépend. Bon, l'Afrique est vaste et diversifiée.
Bien sûr.
La question chinoise, bon, les Chinois ont développé même un modèle très productiviste, en particulier dans le delta du Yangtze, et qu'ils souhaiteraient exporter en Afrique. Voilà. Bon, mais les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions d'appropriation de la terre, les conditions de gouvernance aussi, sont absolument pas les mêmes. Bon, on pourrait éventuellement en rediscuter. Ils sont pas les seuls à chercher de la terre. Vous avez des grands projets sur la Tanzanie, par exemple. J'ai une étudiante qui travaille sur ce qu'on appelle le Southern Corridor, où l'État tanzanien a établi un certain nombre de ce qu'ils appellent des clusters. Autour de ces clusters doivent se développer des grandes plantations qui, d'ailleurs, souvent existent déjà, même depuis la colonisation. Un nombre de participants, d'acteurs qui est très impressionnant. Si vous regardez qui intervient en tant qu'investisseur étranger sur ces projets-là, vous allez rencontrer aussi bien, alors on est dans le PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé, vous allez avoir des coopérations classiques, des agences de développement, de coopération, en particulier du nord de l'Europe, vous allez avoir les grands pourvoyeurs d'intrants, vous allez avoir Monsanto, vous allez avoir des investisseurs plus privés, enfin, etc. Il y a un monde fou. Quand vous regardez vraiment qui intervient là, il y a un monde fou. Ce qui déjà détermine les enjeux. Ce qui est important de voir aussi, c'est que tous ces gens-là ont des temporalités ou des objectifs tout à fait différents. Et c'est déjà la première, le premier problème. Il y avait eu un numéro de la revue Inter-Réseau là-dessus, où les gens expliquaient que cette multiplicité d'acteurs, avec chacun ses propres objectifs, chacun ses propres rythmes, chacun ses propres, etc., faisait que finalement, sur place, il ne se passait rien.
Mais il y a la multiplicité des acteurs, Bernard Charlery de la Masselière, mais il y a aussi, et c'est là où je voudrais vous entendre, sur ce point-là, le statut de la Terre. Vous dites qu'en Afrique, il y a un statut patrimonial, ethnique, de la Terre qui est très différent de celui qui existe en Chine, où on a plus, disons, un statut entrepreneurial de cette question. Ce qui explique d'ailleurs probablement les conflits qui apparaissent un peu partout en Afrique autour de cette propriété foncière.
Bon, je vais donner l'exemple de la Tanzanie que je connais le mieux. Vous avez en gros, vous avez deux grands types d'espaces. Vous avez des espaces qui sont des espaces montagneux, bien arrosés, qui ont fourni depuis longtemps l'essentiel de l'agriculture et des produits agricoles, comme autour du Kilimandjaro, ou au sud, autour des Proto Mountains. Où là, vous avez des espaces où vous avez 1000 habitants kilomètres carrés, vous avez des fermes qui font moins d'un quart de demi-hectare. Donc, il est évident, avec donc un attachement à la terre qui est non seulement économique, mais qui est évidemment culturel et patrimonial. Il n'y a pas de marché de la terre, par exemple au Kilimandjaro, vous n'avez pas de marché de la terre. C'est absolument impossible. Par contre, vous avez de grands espaces dans des zones qu'on appelle semi-arides, c'est-à-dire dans les grands plateaux qui sont au centre de la Tanzanie, qui ont été longtemps d'ailleurs des terres pastorales. Ce sont les pasteurs, les Maasai par exemple, qui ont perdu l'essentiel de leurs terres parce que leur attachement, la façon dont ils font usage de cette terre permet justement cette forme d'appropriation, puisqu'ils sont des populations mobile, etc. Donc ces terres-là, on dit, je le disais récemment, il y a effectivement une très grande disponibilité de la terre. Mais pourquoi ces terres n'ont pas été mises en culture pendant la colonisation? Il y a eu des tentatives. En Tanzanie, par exemple, il y a eu ce qu'on a appelé le Ground Net Scheme dans l'est du pays, qui a été une véritable catastrophe, où les Anglais ont voulu développer une immense ferme d'arachides, et ils ont détruit les sols. Enfin bon, ça a été catastrophique. Pourquoi? Parce que ce sont des sols fragiles, ce sont des sols pauvres, et surtout, il y a un vrai problème d'accès à l'eau. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'accès à la terre est lié aussi directement à l'accès à l'eau. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Et c'est sur ces grandes parcelles, et souvent en réutilisant l'espace qui avait été autrefois capté par des investisseurs multiples, que les nouveaux investisseurs viennent s'inscrire dans l'espace local. Mais entre-temps, vous avez des populations qui sont venues dans ces espaces-là, qui ont essayé de... parce qu'il y a eu un moment de latence, dans, mettons, 80-90, et ont commencé à cultiver. Maintenant, sous l'autorité de l'État, au moins appuyé par l'État, les grands investisseurs foutent ces gens-là dehors.
Eh ben, on va voir justement comment se passent les choses quand les États arrivent finalement et organisent d'une certaine manière cette politique agricole. Bernard Charlery de la Masselière, vous êtes notre invité ce matin dans cette série consacrée à l'agriculture, Tanzanie, Cameroun, Nigeria, de l'agriculture vivrière à l'agrobusiness, c'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Creuset avéré d'intégration nationale doit la compte de nombreuses chefferies traditionnelles. Toutes les communautés sont constituées de personnes volontaires, dignes et nobles, liées par une seule passion, la Castelbire, et à un seul grand rêve, l'émergence d'un dynamisme africain particulier. On comprend dès lors que la cérémonie d'intronisation du roi de ce peuple, le roi des rois Castelbire, placé sous le regard bienveillant d'un chef légendaire Bakoko, est drainé une foule enthousiaste, amoureuse du nectar des dieux, qu'est la Castelbire.
Et le nectar des dieux, le roi Castelbire. La Castelbire, c'est une bière qui est très consommée dans les pays d'Afrique francophone, une bière blonde, produite au Cameroun d'ailleurs, par les brasseries du Cameroun. Bonjour Ludovic Temple.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous vous rendez très régulièrement, vous, au Cameroun, notamment pour donner des cours à l'université Yaoundé. Vous y avez d'ailleurs habité pendant un certain nombre d'années. Vous êtes spécialisé dans ces filières agroalimentaires, sur ces questions aussi de sécurité alimentaire. Vous intéressez en particulier à la contribution de la recherche universitaire dans ce secteur-là au Cameroun. Alors, c'est pas si nouveau de ça, d'ailleurs, de voir... Au Cameroun, la transformation de produits agricoles, on a déjà une industrie agroalimentaire qui est relativement ancienne. Je parlais des brasseries du Cameroun. Je crois que la création des brasseries du Cameroun, c'est les années 40. Donc on voit que ça existe depuis un moment déjà. La question que je voudrais vous poser, Ludovic Temple, c'est dans quelle mesure aujourd'hui est-ce que le développement de ce secteur-là, qui est très important, parce que quand on voit l'agroalimentaire aujourd'hui au Cameroun, c'est 15% du PIB. Alors, est-ce que c'est l'État qui a organisé tout ça ? Est-ce que c'est le résultat réellement d'une politique publique forte ? Ou est-ce que ce sont finalement des investisseurs étrangers qui trouvent là des opportunités ?
Et disons que vous avez trois réalités différentes dans ce secteur agroalimentaire. Hein. Il y a une partie de ces entreprises qui est portée par l'agroalimentaire d'exportation, hein, autour des productions de cacao, café, banane. Donc on importe des produits, essentiellement des produits de base, hein, faiblement transformés. La gouvernance est plutôt privée, voire mixte dans certains cas avec l'intervention donc des pouvoirs publics. Vous avez ensuite un secteur agroalimentaire qui est polarisé par l'importation de produits venant du marché international et qui approvisionne donc le marché intérieur camerounais, voire le marché régional, essentiellement donc autour des productions céréalières comme le blé, comme voire le riz, voire d'autres produits. À l'intérieur de ce secteur, vous avez quelques entreprises qui utilisent des ressources agricoles locales, hein, essentiellement au niveau du palmier à l'huile et du sucre, mais on est toujours dans une agro-industrie qui, d'une certaine manière, est liée à des investissements publics et à une politique qui a été mise en œuvre dans les années 70-80 sur ce sujet. Et ce secteur agro-industriel existe déjà depuis un certain temps, dont il aboutit d'ailleurs à des entreprises dont vous avez parlé, comme les brasseries du Cameroun. On a enfin un troisième ensemble, hein, qu'on peut considérer comme majeur du point de vue de sa contribution à l'emploi et à la sécurité alimentaire, qui est donc constitué par un ensemble qu'on appelle secteur agro-artisanal ou secteur informel, qui est difficile à cerner, mais qui représente plusieurs centaines de milliers d'emplois, voire d'entreprises, et qui, lui, est focalisé plus sur la mise en valeur donc des produits plus locaux. Je pourrais vous citer un certain nombre de produits qui sont peu connus, hein, comme le bobolo, le miondo, le mintumba, le ndolé, est essentiel dans le futur et la capacité de l'agroalimentaire à répondre aux besoins locaux.
Alors essentiel, parce qu'évidemment l'un des enjeux pour l'Afrique, c'est de créer des emplois. Les niveaux de chômage, on le sait, sont extrêmement élevés, en particulier d'ailleurs pour les jeunes. Beaucoup d'observateurs, de responsables politiques évoquent à ce propos une véritable bombe à retardement. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que véritablement l'agro-industrie, c'est le levier qu'on nous vend pour créer des emplois? Et est-ce que le développement de l'agro-industrie est un atout pour les petits paysans ? Dans le cas du Cameroun que vous connaissez, est-ce que vous constatez qu'effectivement, c'est bénéfique pour les petits paysans ?
L'agro-industrie crée de la valeur. Après, la question, c'est qui capte cette valeur ? En termes d'emploi et de contribution à l'emploi, on estime sa contribution autour de 30 à 40 000 emplois. Sur une population active qui fait 10 millions d'habitants. Donc l'agro-industrie ne solutionne pas le problème de l'emploi. Elle est nécessaire, elle apporte un certain nombre de recettes d'exportation, elle importe des technologies, elle joue un certain rôle, mais elle ne résoudra, de mon point de vue, il y a des chiffres que l'on peut utiliser, elle ne peut résoudre le problème de l'emploi. Par conséquent, il faut s'intéresser à d'autres dynamiques qui lui sont complémentaires. Et la question, c'est comment cette agro-industrie se diversifie et se met davantage en connexion avec tout un secteur des PME artisanales et comment se créent ces interactions qui feront que l'agroalimentaire en place évoluera davantage vers l'entrepreneuriat, valorisant donc mieux les produits locaux.
Mmh. Je vais prendre un exemple très concret, Ludovic Tank, pour justement essayer de mesurer l'effet des politiques publiques en la matière et peut-être d'en voir les limites. Et puis ensuite, je redonnerai la parole à Bernard Charlery de La Masselière. J'ai trouvé l'histoire d'une usine de transformation de manioc sur le site croireaucameroun.net qui me paraît assez intéressante. Le Cameroun produit du manioc, très bien. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts en la matière. On a organisé l'exploitation de plusieurs dizaines d'hectares de manioc, et notamment, bien sûr, suite aux émeutes de 2008. Mais pendant longtemps, il n'y avait pas d'usine de transformation. On a donc mis en place des outils, notamment une usine de transformation de manioc dans le sud du pays, c'est la société Sotramas, pour Société de Transformation Industrielle de Manioc de Sangmelima. Sauf que le problème, c'est que l'usine était en capacité de gérer l'équivalent de 10 hectares par jour, production de 10 hectares par jour, mais que la production de manioc, elle, sur le terrain, ne suivait pas. Donc l'usine était tout simplement à l'arrêt. Là, on voit bien qu'il y a un problème de planification, et ce qui nous invite aussi peut-être à nous interroger sur la juste taille de ces usines de transformation. Est-ce qu'il faut de grosses unités, de grosses usines, ou plutôt, disons, un ensemble de plusieurs petites unités, de petite taille, Ludovic Temple?
Alors, la réalité du système alimentaire camerounais, c'est d'être très diversifié, et donc c'est à la fois une force et une faiblesse. Et donc, ça veut dire que des produits standardisés vont répondre difficilement à cette diversité des styles alimentaires. Donc, on a besoin de pouvoir répondre à une grande hétérogénéité des modes de consommation, des situations de consommation. Et dans la situation actuelle, des grandes usines industrielles proposant des produits homogènes répondent mal à cette structuration de l'alimentation. Et on peut penser que un tissu de petites entreprises, de moyennes entreprises, aura et a déjà plus de flexibilité pour approvisionner ce marché. Je connais un peu l'exemple que vous citez à Sanménima, et donc effectivement il y a d'autres situations du même type sur le manioc. Le manioc est effectivement une des filières majeures dans les processus de création d'emplois et de transformation des produits permettant de stabiliser, de conserver donc des produits alimentaires, notamment par rapport à l'approvisionnement des villes. Pour l'instant, les tentatives de création de grandes usines, mais pas seulement au Cameroun, dans d'autres pays, au Nigeria, etc., en général, réussissent peu. Une des difficultés, vous l'avez souligné en partie, on est aussi dans des agricultures qui sont très atomisées, qui sont des petites structures familiales, et que donc les besoins de ces usines de pouvoir regrouper des volumes homogènes, réguliers, à faible distance de approvisionnement, ne répondent pas actuellement aux structures de la production agricole. Alors, est-ce qu'il faut modifier les structures de la production agricole, ou est-ce qu'il faut modifier les structures des usines? Je préférerais modifier les structures des usines.
Oui, a priori, en plus, ça demande moins d'efforts, parce qu'effectivement, dans la première hypothèse, ça veut dire qu'il faut travailler sur la conservation des denrées, sur le stockage, sur le transport, ce qui, en théorie, peut être plus compliqué. Je voudrais vous faire réagir, Bernard Charlery de La Masselière, sur ce cas camerounais, et puis peut-être en particulier sur ce qui apparaît quand même comme un paradoxe, c'est-à-dire que le Cameroun développe son industrie agroalimentaire, alors que dans le même temps, le pays est encore obligé d'importer un certain nombre de denrées, en particulier des denrées de base, je pense par exemple au riz. Est-ce qu'il n'y a pas urgence finalement à assurer d'abord et avant tout l'autosuffisance alimentaire? Bernard Charlery de La Masselière, oui. En duplex avec nous depuis Toulouse.
Oui, sur la base de quel produit? Je voudrais d'abord réagir sur une première chose quand vous parlez quand vous parlez d'emploi, parce qu'il ne faut pas plaquer sur l'Afrique l'image que nous avons, nous, de l'emploi. D'ailleurs, je pense que même chez nous, il faudrait faire évoluer notre imaginaire sur l'emploi. Il faut bien savoir que la plupart des familles d'agriculteurs, de ruraux, aujourd'hui survivent ou tentent d'accumuler à partir de la pluriactivité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés simplement dans une seule activité. Vous avez le champ, comme certains disent, et puis il y en a qui va faire la moto, et puis il y en a qui est en Tanzanie, par exemple, il y a un fils qui est à Dubaï, il y a un autre qui est en ville, il y en a qui fait du business, et tout ça crée une économie familiale, rurale, sur laquelle, d'ailleurs, on a trop peu de données. Trop peu de données. Et d'ailleurs, je me demande parfois, quand les gens raisonnent sur l'agriculture africaine, à partir de quelles données ils raisonnent, parce qu'il n'y a plus les grands programmes de statistiques nationales. Et dans la diversité actuelle des situations, il faudrait même mettre en place des procédures de collecte d'informations tout à fait nouvelles. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... Moi, je suis d'accord avec Ludovic Temple quand il dit qu'il faut s'appuyer sur la multiplicité des petits ateliers. Moi, j'appelle ça des petits ateliers ou des petites entreprises qui n'ont aucun support, qu'on ignore complètement, qui ne sont même pas inscrites dans la comptabilité nationale et qui sont au plus près des habitudes alimentaires, etc. Et qui surtout font vivre, c'est small is beautiful peut-être, mais qui font vivre des villages qui sont souvent éloignés des grandes villes, etc. Et il y a toute une économie qui se met en place autour de cette transformation qui n'est pas assez, à mon sens, valorisée. Alors, faut se dire, par exemple, on n'importe pas assez de riz, mais pourquoi du riz ? Alors qu'il y a bien d'autres produits. Parce qu'on est d'abord sur l'agressivité de certains pays exportateurs sur les marchés internationaux, parce qu'ils veulent, il faut et ils doivent exporter leur riz. Donc, bien sûr, on va avoir ce schéma-là. C'est vrai que l'alimentation urbaine, peut-être aussi dans les grandes villes en particulier, a évolué, mais enfin quand même aujourd'hui, contrairement aux années 70, il y a une diversité, une attente des consommateurs qui repose quand même sur des produits locaux.
Allez, on va avancer, on va aller du côté du Nigeria. Je voudrais remercier en tout cas beaucoup Ludovic Temple d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, économiste au CIRAD, du Cameroun au Nigeria, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir à présent. Au Nigeria, les investissements dans le domaine de l'agriculture sont là aussi très nombreux et les hommes d'affaires à court pour mener des projets justement.
In our own group, we're putting in a lot of money, about $1 billion into rice and sugar.
Dans notre groupe, nous investissons beaucoup d'argent, environ $1 milliard dans la production de riz et de sucre. Nous voulons investir dans une usine qui utilisera 1200 tonnes de tomates. Pour l'instant, nous sommes en train de mener des évaluations concernant cette usine, mais l'argent devrait être engagé dès le mois d'octobre. Nous pensons que c'est avec ce genre de projet que l'Afrique va avancer. Nous investissons également $50 millions dans la canne à sucre et la production d'huile. Nous avons déjà fourni des centaines de milliers de graines aux fermiers afin qu'ils deviennent nos partenaires. Nous voulons également investir 1 million dans des pépinières afin de pouvoir développer dans quelques années nos propres fermes. Nous produisons 250 000 hectares de canne à sucre et nous avons déjà nos raffineries. Nous espérons produire des millions de tonnes de riz à partir de l'année prochaine. Donc, nous pensons que le Nigeria est le pays où les opportunités sont intarissables.
So we believe Nigeria is a land of endless opportunities.
Voilà, Aliko Dangote, milliardaire nigérian, l'homme d'affaires le plus riche du continent, dit-on, qui a vu dans ce Nigeria un Eldorado pour celui qui veut faire fructifier la terre. Bonjour Daniel Mwen Makua. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil en investissement durable Bwamanga, donc peut-être pas exactement le même genre, justement, d'homme d'affaires. On va le voir dans un instant. Votre société a investi dans l'agrobusiness en Afrique de l'Ouest et en particulier au Nigeria et au Ghana, on va le voir. Il y a quelques années, vous êtes lancé dans un certain nombre de culture un petit peu partout dans le pays, au Nigeria, sorgho, soja, arachide, maïs, riz. D'abord, première question, pourquoi avoir choisi le Nigeria ? En quoi il vous semblait que c'était un pays où il était intéressant de faire des investissements dans l'agrobusiness ?
Bonjour, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Bon, écoutez, le Nigeria est un pays qui a 170 millions d'habitants par rapport au Cameroun, moi je suis Camerounais, qui en a 20 seulement, donc c'est une grosse opportunité. Une croissance de population qui est de à peu près 2,4 par an, donc si on regarde un business, des affaires qui produisent, donc on a une croissance du chiffre d'affaires qui est en ligne avec la croissance de la population, quelque part. Et puis aussi une capacité à produire des denrées agricoles de base qui est mauvaise, à la fois parce qu'il y a des questions d'effet de serre, de pluviométrie qui sont devenues très irrégulières, mais un système très inefficient avec une productivité des petits fermiers qui est mauvaise, puisqu'on arrive en dessous de la tonne par hectare sur du maïs, alors que des productions qui sont efficaces sont autour de 4 tonnes, voire même plus si on peut faire de l'irrigation. Ouais. Donc, ce différentiel entre une croissance et une production qui est inférieure se traduit par des importations très importante de riz, de maïs, et donc opportunité de produire et de vendre, quoi. Donc c'est vraiment ce qui m'a amené à réfléchir et à aller sur le terrain. Mon expérience était la gestion d'actifs à Londres, donc j'ai quitté Londres pour commencer une ferme dans l'état de Bauchi, qui est à peu près 5 heures de route au nord-est d'Abuja.
Ouais, une grande exploitation de 4000 hectares, sauf que malheureusement, vous avez dû arrêter à cause des problèmes de sécurité, à cause de Boko Haram en l'occurrence. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, les 4000 hectares m'ont été confiés par Lamido pour ne pas prendre trop de risques financiers initialement, parce que c'est quand même très complexe le processus de gestion fermière et beaucoup de paramètres à optimiser. Donc, on a été jusqu'à 100 hectares en montée en puissance pendant 2 ans. On faisait du maïs, du sorgho, du haricot blanc, du soja, qui sont vraiment des cultures de base qui sont qu'on peut vendre sur place.
Et c'est une activité que vous meniez, j'allais dire, en totale indépendance du gouvernement fédéral, ou est-ce que vous aviez le soutien, voire il y avait une forme de coopération avec l'État?
Non, c'était complètement l'idée étant de perfectionner un processus d'investissement de façon à ce que je puisse lever des fonds après pour augmenter la ferme en production depuis 100 hectares jusqu'à 500 voire 1000 hectares. Donc l'idée c'était vraiment et pour convaincre les investisseurs, bien entendu, il fallait que je le fasse moi-même avec mon argent jusqu'à ce que j'obtienne une profitabilité suffisante pour justifier auprès d'investisseurs le fait que c'était vraiment une opportunité.
D'accord. Donc vous avez absolument pas fait appel au deniers publics. Vous n'avez pas demandé le soutien du gouvernement. Ça ne s'est pas fait dans le cadre de politiques publiques préétablies.
Non, pas du tout. Par contre, ça m'a permis vraiment de passer beaucoup de temps sur place, donc Bauchi, mais aussi dans l'état de Borno, de Yobe, de Gombe. Et de constater qu'il y avait effectivement un outil étatique qui était plus ou moins efficace.
Ça veut dire et quoi, puis, plus ou moins efficace? Donnez-moi des exemples très concrets. En quoi est-ce que la politique publique en matière agricole au Nigeria ne serait pas efficace?
Bah écoutez, ce que je constate, c'est qu'il est facile de construire des entrepôts, des barrages, acheter des tracteurs, mais il est très difficile de gérer de façon économique toute activité. Donc on voit beaucoup donc tous les programmes, tout ce qu'on entend en général, c'est essentiellement de l'achat, de la construction, mais c'est très peu de gestion. Et le petit fermier, lui, ne bénéficie absolument pas de toutes ces aides gouvernementales.
Vous dites par exemple que l'État finance l'achat de machines agricoles, sauf qu'en réalité, soit les machines sont carrément pas livrées, soit elles sont livrées à des gens qui sont, disons, des proches du pouvoir politique. On peut le dire comme ça.
Oui, tout à fait. Donc quand on regarde les gros prêts subventionnés, beaucoup de ces prêts au Nigeria sont allés auprès d'hommes politiques, proches de politiques et autres. Il y a très très peu de prêts subventionnés qui vont directement sur des petits fermiers.
Et vous, suite à l'arrêt justement de cette ferme, vous êtes donc retourné vers un autre pays, parce que vous êtes allé du côté du Ghana, où vous planifiez en ce moment des nouvelles productions.
Oui, alors j'ai continué, parce que je me suis intéressé à des questions de support aux réfugiés dans l'état de Borno, parce que effectivement il y a des questions de recréer le tissu social, comment le faire, Ce que j'ai fait à Bauchi, je l'ai fait dans un processus que j'appelle de semi-automatisé, donc avec le tracteur et puis utiliser des paysans. Dans les premières années, on ne souhaitait pas faire de gros investissements, donc on s'est mis à faire le forage par tracteur et puis le reste était fait en utilisant une technique japonaise qui s'appelle Sasakawa, qui en fait systématise tout ce qui est planter alors mes termes sont très anglais, donc je m'excuse.
Je vous en prie.
Mais toutes les activités de maintenance d'une production. Donc ça m'a permis de voir dans le détail comment apporter un support aux petits fermiers et de ce fait devenir conseiller du gouvernement de Borno, de l'État de Borno, mais aussi de l'État de Bauchi.
D'accord. Donc finalement, je comprends qu'il y a dans votre démarche une recherche d'un certain équilibre qui respecterait, j'allais dire, les petits paysans, les petits agriculteurs. On arrive malheureusement au terme de cette émission. En tout cas, un grand merci à vous, Daniel Mouen-Makoua, d'avoir été avec nous. Je rappelle, fondateur de ce cabinet de conseil en investissement durable qui s'appelle Boamanga. Un grand merci à vous. Et puis un grand merci à vous Bernard Charlery de La Masselière de nous avoir accompagnés ce matin dans cette émission consacrée à l'agriculture africaine. Vous étiez en duplex avec nous depuis Toulouse. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui étaient à vos côtés pour assurer la liaison. Et puis je rappelle pour les auditeurs qui veulent en savoir plus justement sur ces questions paysannes en Afrique, votre ouvrage « Penser la question paysanne en Afrique intertropicale ». On mettra bien sûr la référence de votre ouvrage sur la page de Culture Monde.